t'adorer.
Oui, notre place est ici, Seigneur, auprès de toi. Nous ressentons ta présence, nous apprécions ta présence. Ta présence nous fait du bien. Elle nous renouvelle, elle nous réconforte. Elle nous relève puissamment, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Nous écoutons ta parole. Nous voulons être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, Seigneur, de ce que tu veux nous enseigner. Et nous savons par avance que tu vas nous bénir encore ce soir, Seigneur. Merci pour toutes choses, Père. Sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à propos de l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est une des plus grandes vertus dans le royaume de Dieu. Mais c'est aussi dans ce monde une des vertus les plus méprisées des hommes. L'humilité est une vertu méprisée des hommes. Et beaucoup de personnes considèrent que l'humilité, c'est une faiblesse. Certains pensent que s'humilier, c'est perdre sa valeur, c'est perdre sa légitimité, c'est perdre sa dignité. Que quelque part, quand on s'humilie aux yeux des hommes, on se met plus bas que terre. Mais selon Dieu, l'humilité n'est pas une faiblesse. Au contraire, l'humilité est une force spirituelle. Et la Bible nous enseigne que l'humilité est le chemin qui mène à la gloire, que l'humilité est le chemin qui mène à la grâce, que l'humilité est le chemin qui mène à l'élévation. Amen. Et la Bible nous montre que Dieu aime trouver l'humilité chez ses enfants. Dieu aime trouver l'humilité chez ses enfants. Et il considère l'humilité comme une qualité indispensable pour notre élévation. Et donc je vous propose de lire ensemble deux versets qui illustrent mon propos. Donc, je vais lire dans la version Second 1910. Tout d'abord, dans l'évangile de Luc, au chapitre 14 et au verset 11. Luc, chapitre 14, verset 11. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » On le relit. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Et un autre passage dans la parole, dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 33. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Donc, nous allons voir ensemble ce soir 6 vérités bibliques à propos de l'humilité. Premièrement, l'humilité nous donne la vraie connaissance de nous-mêmes. Deuxièmement, l'humilité nous fait oublier ce que nous sommes. Troisièmement, l'humilité est d'abord intérieure. Quatrièmement, l'humilité est un signe de grandeur. Cinquièmement, l'humilité est une manifestation de l'amour. Et sixièmement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Tout d'abord, l'humilité nous donne la vraie connaissance de nous-mêmes. La vraie connaissance de nous-mêmes. Comment définir l'humilité? L'humilité, c'est à la fois une qualité et c'est aussi une vertu. Une qualité, c'est ce qui nous rend capables, c'est ce qui nous rend appréciables dans les relations que nous avons avec les autres, avec les personnes qui sont autour de nous, les personnes que nous côtoyons. Ça, c'est une qualité. La vertu, c'est une disposition de cœur qui est conforme à la volonté de Dieu. La vertu, c'est une qualité de cœur qui est appréciée par Dieu. C'est une qualité de cœur que Dieu aime trouver chez un homme. Donc, c'est une qualité particulière parce qu'elle nous donne le sentiment de notre faiblesse et de notre incapacité, de notre insuffisance. Et l'humilité est aussi une vertu très particulière parce qu'elle nous donne le sentiment, la conscience de notre faiblesse. L'humilité nous donne la conscience de notre faiblesse, de notre insuffisance. Et c'est aussi une vertu qui réprime, qui limite, qui empêche l'orgueil de venir dans nos cœurs. Elle a cette puissance. C'est une vertu, l'humilité, qui chasse l'orgueil à l'intérieur de nous. Et lorsque nous méditons à propos de l'humilité, nous comprenons qu'elle nous permet de nous voir exactement comme nous sommes sans Dieu. L'humilité nous permet de nous voir comme nous sommes sans Dieu. C'est-à-dire qu'elle nous montre notre faiblesse, elle nous montre notre petitesse, elle nous montre nos limitations, elle nous montre notre incapacité, elle nous montre nos limites, elle nous montre ce que nous sommes réellement sans Dieu. Car sans Dieu, nous ne sommes rien. Et l'humilité nous permet de prendre conscience de cela. Alors que l'orgueil, lui, va permettre à l'homme de se voir plus grand, de se voir plus beau, de se voir plus intelligent, de se voir plus fort qu'il n'est réellement. L'humilité, c'est l'inverse. L'humilité nous fait prendre conscience et nous révèle notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Alors que l'orgueil, c'est l'inverse. L'orgueil voudrait nous montrer que nous pouvons être indépendants de Dieu, que nous pourrions vivre sans Dieu. Amen. J'ai imagé cela par des loupes. L'humilité, ça serait une loupe de vérité. Quand nous regardons notre vie, quand nous regardons notre cœur à travers cette loupe de vérité, nous voyons ces choses ressortir. Nous voyons notre dépendance vis-à-vis de Dieu ressortir. Nous voyons notre faiblesse grossir. Nous voyons notre petitesse, notre incapacité grossir. Et à l'inverse, l'orgueil serait une loupe de mensonge. Quand nous regardons notre vie avec la loupe de l'orgueil, nous voyons que nous sommes très grands, nous voyons que nous sommes très beaux, très forts, que nous avons beaucoup de choses, que finalement nous pouvons nous passer de Dieu. Et ça, c'est une loupe de mensonge. Nous pouvons lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. L'Évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Jésus parle ici de deux hommes qui montaient au temple pour prier. L'un était pharisien, c'était un juif, un religieux, un homme qui était très attaché à la loi, très attaché aux traditions humaines. Et l'autre, c'était un publicain. Un publicain, c'était un collecteur d'impôts qui travaillait pour l'Empire romain, qui occupait la région à cette époque. Donc, il était doublement impopulaire, parce qu'il collectait les impôts et parce qu'il servait l'Empire romain. Et le pharisien disait « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Et au lieu de regarder à Dieu, le pharisien regardait aux autres hommes. Et au lieu de reconnaître ses propres fautes, il comparait sa vie à celle du publicain. Il avait un orgueil spirituel. Il était fier de ses jeûnes, il était fier de ses prières, il était fier de sa consécration, mais le publicain, lui, il se tenait à distance. Il se tenait à distance et il est dit qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il frappait sa poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus, ici, a déclaré celui-ci, donc en parlant du publicain, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Pourquoi ? Parce que l'humilité justifie, alors que l'orgueil condamne. L'humilité justifie, mais l'orgueil condamne. Même lorsque nous prions beaucoup, même lorsque nous jeûnons beaucoup, nous ne devons jamais oublier que notre justice vient de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Même lorsque Dieu nous utilise puissamment, nous ne devons jamais oublier que notre justice vient de Jésus et de Jésus seul. Frères et sœurs, notre confiance ne doit pas se trouver dans nos œuvres. Mais notre confiance doit se trouver dans la grâce, et dans la grâce seule. Nous ne devons pas placer notre confiance dans nos œuvres, dans nos capacités, dans ce que nous faisons, mais plaçons notre confiance dans la grâce seule. Amen. Deuxièmement, l'humilité nous fait oublier ce que nous sommes. L'humilité nous fait oublier ce que nous sommes. Je disais que l'humilité est une vertu, une disposition de cœur qui plaît à Dieu. Dieu aime l'humilité parce que c'est une vertu qui est conforme à sa volonté. C'est ce que veut Dieu, que nous ayons cette attitude, ce cœur humble. Parce que la véritable humilité nous fait oublier qui nous sommes. La véritable humilité nous fait oublier nous-mêmes. Elle nous fait oublier notre rang, elle nous fait oublier nos richesses, elle nous fait oublier notre position, elle nous fait oublier notre intelligence. L'humilité, la véritable humilité, nous fait tout oublier. Et une des marques de l'homme humble, c'est qu'il ne vit pas, l'homme humble ne vit pas en contemplant sa situation, sa grandeur, en se contemplant lui-même, mais le véritable homme humble vit en contemplant la grandeur de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 6, au verset 12 à 23. De Samuel, chapitre 6, verset 12 à 23. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Dans ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de vin, de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vif que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. » David est un exemple remarquable de l'homme humble qui vit en contemplant la grandeur de Dieu et non la sienne. Et lors du retour de l'arche, il danse de toutes ses forces devant l'Éternel. Et pourtant, David était roi, il était le chef d'Israël, il était le personnage le plus haut placé dans le peuple, il était prophète, il était chantre, il était très puissant. Mais lorsqu'il se trouve devant Dieu, David oublie sa royauté, il oublie son prestige, il oublie son rang, il oublie son honneur, et il danse devant l'Éternel. Et Michal, sa femme, la fille de Saül, il est dit qu'elle méprisa David. Elle le méprisa, lui reprochant de s'être comporté comme un homme de rien, comme un homme ordinaire. Mais David répondit, « C'est devant l'Éternel que j'ai dansé, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. » David n'avait jamais oublié d'où Dieu l'avait tiré. David n'avait jamais oublié que Dieu était venu le choisir au milieu d'un troupeau de brebis. Il savait que tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il était, il savait que tout cela venait de Dieu. Et Michal regardait, elle, à sa position. Elle regardait à la position de David. Mais David, lui, il regardait à Dieu. Et la Bible nous dit que Michal demeura stérile jusqu'au jour de sa mort. Et ici, on a vu que l'orgueil a produit la stérilité. Mais on a vu aussi que l'humilité a attiré la grâce de Dieu. Amen.
Amen.
Troisièmement, l'humilité est d'abord intérieure. L'humilité est d'abord intérieure. L'humilité n'est pas d'abord une attitude extérieure, mais c'est d'abord une modestie de l'âme. On disait que c'est une vertu, c'est une modestie de l'âme. Et l'humilité commence d'abord à l'intérieur, puis elle se voit à l'extérieur. Avant d'apparaître dans les gestes, avant d'apparaître dans les attitudes, dans les relations, l'humilité doit d'abord exister dans le cœur. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 23, versets 25 à 28. Matthieu 23, 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Les pharisiens se donnaient l'apparence de l'humilité. Ils priaient publiquement, ils jeûnaient publiquement, ils adoraient publiquement, ils affichaient leur piété dans la rue, aux yeux de tous. Mais Jésus ici les appelle des tombeaux blanchis, propres à l'extérieur mais pourris à l'intérieur. Les tombeaux blanchis, dans la tradition juive, c'était une pratique rituelle. On faisait en sorte que, accidentellement, on ne puisse pas toucher un sépulcre, une tombe, Pourquoi ? Parce qu'on enterrait les défunts dans des grottes, dans des cavernes, dans des creux de rochers, dans des pierres, etc. On pouvait les enterrer de façon accessible, il n'y avait pas de cimetière, ça pouvait être un peu partout. Et donc, pour les pharisiens, c'était une pratique importante. On a dit qu'ils étaient attachés à la loi et ils étaient aussi attachés aux traditions. Et notamment, avant les fêtes religieuses, il y avait des pèlerins, des personnes qui venaient dans les villes pour les fêtes religieuses. Et pour éviter qu'accidentellement ces personnes-là touchent un lieu de sépulcre ou un tombeau, on mettait une marque blanche et cela évitait que le passant touche accidentellement le sépulcre. Et Jésus utilise ici cette expression pour dénoncer l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Ils étaient extérieurement propres, mais intérieurement ils étaient impurs. Et la véritable humilité, c'est aussi cela. Elle ne consiste pas à se donner une apparence humble si intérieurement cette humilité n'est pas dans le cœur. La véritable humilité ne consiste pas à parler doucement, à parler gentiment, à s'agenouiller, à se donner une apparence religieuse, à se donner une mine triste ou une mine gentille. La véritable humilité, elle naît dans le cœur. Ça, c'est la véritable humilité. Et lorsque le cœur sera véritablement transformé, alors les gestes vont changer, les comportements vont changer, les attitudes vont changer, les relations vont changer. Mais lorsque l'extérieur seul change, lorsqu'il n'y a que l'extérieur qui change, alors nous sommes devenus hypocrites. C'est ce que dit le Seigneur ici. Et la volonté de Dieu pour quiconque, c'est que l'intérieur du vase d'abord soit propre, et ensuite seulement l'extérieur. L'humilité, c'est d'abord une affaire intérieure. Et cela, frères et sœurs, ce n'est pas un détail. Dieu n'a que faire d'une adoration, d'une louange, d'une adoration extérieure, si l'intérieur est sale. Dieu ne veut pas cela. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Et que promet Jésus à de tels comportements ? On peut le lire un peu plus loin, au verset 33. Matthieu 23, verset 33. Jésus dit, « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Donc, ce n'est pas une petite affaire, parce que Jésus ici promet la géhenne, c'est-à-dire l'étang de feu, c'est-à-dire la punition éternelle pour les hypocrites. Craignons cette parole, frères et sœurs, la Bible est encore d'actualité aujourd'hui. Ce que Jésus a dit il y a 2000 ans, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et accordons, et je prêche pour moi en premier, accordons une grande humilité. Accordons une grande attention à notre humilité intérieure. Accordons une grande attention à notre humilité intérieure. Quatrièmement, l'humilité est un signe de grandeur. Un signe de grandeur. Évangile de Luc, chapitre 9, versets 46 à 48. Luc, chapitre 9, versets 46 à 48. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Les disciples discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc ils étaient très près de Jésus. Ils vivaient avec Jésus, mais on voit qu'ils avaient encore besoin de grandir dans l'humilité. Et la réponse de Jésus est très étonnante, parce qu'à aucun moment, Jésus ne leur reproche la discussion. À aucun moment, Jésus ne leur reproche de vouloir savoir qui est grand ou qui est le plus grand. Pourtant, on aurait pu s'attendre à ce que Jésus les reprenne là-dessus et leur dise « Attention, je vous reproche ce manque d'humilité que vous pouvez avoir. » Mais ce n'est pas du tout la réponse de Jésus. Et ici, et comme toujours, Jésus va enseigner avec puissance, mais aussi avec une grande simplicité. Que va-t-il faire ? Il va leur révéler le chemin de la grandeur, de la véritable grandeur, en prenant un exemple, celui d'un petit enfant, un petit. Et il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Quelle puissance ! Quelle parole extraordinaire de Jésus ! Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Qui dans ce monde vous conseillerait cela ? À part Jésus. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus pour prononcer de telles paroles. Selon le monde, selon notre monde, le plus grand, c'est celui qui est servi. Le plus grand dans ce monde, c'est celui qui est servi. Mais selon Jésus, le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand n'est pas nécessairement celui qui a le plus d'argent, celui qui a le titre le plus élevé. Le plus grand n'est pas nécessairement celui qui est assis à la meilleure position, à la meilleure place, mais selon Jésus, le plus grand serviteur de tous, c'est celui qui sert les autres. le plus élevé, c'est le plus humble. Ça serait peut-être ici celui qui balaye l'église, ça serait peut-être ici celui qui lave les toilettes, celui qui range le matériel, celui qui intercède dans le secret, celui qu'on ne voit pas. Ça serait peut-être celui-là, le plus grand. Et dans le royaume de Dieu, la grandeur d'un homme, elle ne se mesure pas à sa célébrité, comme ici dans ce monde, à ce qu'il possède, à sa richesse, à sa position, à sa situation. Elle ne se mesure pas par les honneurs de ce monde. La grandeur, selon Jésus, elle se mesure par le service et par l'humilité. Amen. Cinquièmement, l'humilité est une manifestation de l'amour. Une manifestation de l'amour. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 1 à 5. Jean, chapitre 13, versets 1 à 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Jean nous dit que Jésus, ayant aimé les siens, mit le comble à son amour pour eux. Et comment a-t-il manifesté cet amour? En leur lavant les pieds. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, à genoux devant ses disciples, en train de leur laver les pieds. Qui ferait cela? Il s'humilie volontairement. C'est pour cela, frères et sœurs, que je dis que l'humilité est une manifestation de l'amour, car l'amour produit l'humilité, et l'humilité, elle aussi, révèle l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La Bible nous enseigne que là où règne l'amour, l'orgueil disparaît. Là où règne l'amour, l'orgueil disparaît. Mais la vérité, le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire que là où règne l'orgueil, là où règne l'orgueil, l'amour disparaît. Faisons attention. Si nous aimons Jésus-Christ de tout notre cœur et si nous voulons qu'il nous appelle ses amis, alors l'amour doit régner dans nos vies et l'orgueil doit être chassé. L'orgueil n'a pas sa place. On ne peut pas aimer sincèrement et avoir de l'orgueil en même temps. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être humble sans aimer. On ne peut pas faire coïncider l'amour et l'orgueil en même temps dans nos vies, parce que l'amour et l'humilité marchent ensemble. L'amour et l'humilité sont des choses inséparables. Je parle là du véritable amour, et je parle là de la véritable humilité. Je parle là de l'exemple de Jésus. Il n'y avait en Jésus pas une once d'orgueil. Quand Jésus se met à genoux devant les disciples, il s'humilie volontairement, et il le fait de tout son amour. Il est écrit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Il a lavé les pieds de ses disciples pour être un modèle. Pour être un modèle non seulement pour ses disciples, mais aussi pour être un modèle pour nous. Il nous dit quelque part, je vous ai donné un exemple, je vous ai donné mon exemple. Jésus nous a donné l'exemple de ce qu'est le véritable amour et de ce qu'est la véritable humilité. Lui qui était le plus grand, il était le plus grand de ce monde, il est le Dieu vivant. Lui-même s'est humilié, il nous donne cet exemple-là. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement jeûner, ce n'est pas seulement faire des miracles, ce n'est pas seulement guérir des malades ou tout ce que vous voulez. Être disciple de Jésus-Christ, c'est avant tout marcher dans l'humilité et dans l'amour, tel qu'il nous l'a enseigné et tel aussi qu'il nous l'a commandé. C'est ce que Jésus nous a commandé. Commençons par vivre dans l'amour et dans l'humilité et toutes choses nous seront données par-dessus. Amen.
Amen.
Et sixièmement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Épître de Jacques, au chapitre 4, versets 5 à 7. Jacques, chapitre 4, versets 5 à 7. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'ennemi de l'orgueilleux, ce n'est pas Satan. Satan n'est pas l'ennemi des orgueilleux. L'ennemi des orgueilleux, c'est Dieu lui-même. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu est ennemi des orgueilleux. C'est ce que nous dit la Bible. Qui voudrait être ennemi de Dieu? Qui voudrait être ennemi de Dieu? Quel malheur plus grand pouvons-nous rencontrer dans notre vie qu'être ennemi de Dieu, avoir Dieu contre soi? Lorsque tu vis dans l'orgueil, à cause de ton argent, à cause de tes possessions, ou même pour des choses spirituelles, à cause de ta connaissance des Écritures, à cause de ton onction, du ministère que Dieu t'a donné, à cause des voyages que tu fais, quand tu vis dans l'orgueil parce que tu as de beaux vêtements, parce que tu es beau, parce que tu as de la force, parce que tu as tout ce que tu veux, des relations, etc., Dieu te résistera. Si tu as de l'orgueil pour toutes ces choses-là, Dieu te résistera. Et il n'y a pas de malheur plus grand dans la vie d'un homme, je crois, que d'avoir son Dieu, son Père, son Créateur contre soi. Je pense que c'est ce qui peut nous arriver de pire. Voilà pourquoi, si tu es dans cette situation, je t'invite à t'humilier. Je t'invite à donner ton cœur à Jésus. Car seul Jésus peut te donner la véritable humilité. La véritable humilité ne vient que de Jésus. Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est son Saint-Esprit qui vient créer en nous cette nature humble. Notre nature humble ne peut venir que du Saint-Esprit. La véritable humilité ne peut venir que de Jésus. Amen. Un orgueilleux peut s'acheter l'apparence de l'humilité. On peut feindre l'humilité. On peut faire semblant qu'on est humble. On peut se fabriquer une façade d'humilité. Ça peut se faire. Et on peut tromper les hommes. Mais dans son cœur, on ne peut pas tromper Dieu. Ce qui se passe dans notre cœur, on ne peut pas le cacher à Dieu. Il ne sera jamais véritablement un homme humble juste parce qu'il se donne l'apparence d'un homme humble. Ça ne marche pas comme ça. La Bible nous enseigne qu'on ne peut tromper Dieu. On ne peut tromper Dieu. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Et lorsque nous nous humilions, Dieu nous accorde sa grâce. Et lorsque Dieu accorde sa grâce à un homme, rien ne peut l'arrêter. Amen. Pour conclure, donc nous avons dit que l'humilité donne la vraie connaissance de nous-mêmes, que l'humilité nous fait oublier ce que nous sommes, que l'humilité est d'abord intérieure, que l'humilité est un signe de grandeur, que l'humilité est une manifestation de l'amour et que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le pharisien a été abaissé et le publicain a été justifié. Michal a été frappé de stérilité et David a été établi dans sa royauté. Le plus grand n'était pas un homme disciple, mais le plus grand était un petit enfant. Jésus n'a pas régné en écrasant ses sujets, ses disciples, mais Jésus a régné en servant ses disciples. Jésus nous a montré le chemin. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, après cette humiliation, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé Jésus dans son humilité. Bien-aimé, examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs. Je crois que personne qui ne soit pas concerné par cela. Toutes et tous, moi le premier, nous sommes concernés par ces choses-là. Nous devons examiner nos cœurs et nous devons demander au Seigneur de nous enseigner comment recevoir cette véritable humilité, demander cette véritable humilité. Pas une humilité de façade, pas une humilité extérieure, pas quelque chose qui trompe les hommes, mais une véritable humilité selon le cœur de Dieu, profonde, sincère, intérieure, une humilité qui est produite par le Saint-Esprit. Car être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement marcher dans la puissance. C'est bien de marcher dans la puissance. Mais être disciple de Jésus-Christ, c'est aussi, et je crois, personnellement, je crois avant tout, marcher dans l'humilité. Et je vais terminer en relisant ce verset que nous avons lu tout à l'heure en introduction. Proverbe chapitre 15, verset 33. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Craignons l'Éternel, craignons l'Éternel. C'est ainsi qu'il va nous enseigner la sagesse et l'humilité qui précède la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons été hypocrites. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces fois où l'intérieur était sale mais l'extérieur était propre. Et Seigneur, ce soir, nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Et nous voulons te redire, Seigneur, que nous t'aimons. Que, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette grâce que tu nous as accordée de faire de nous tes enfants, Seigneur. Et de nous envoyer ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons encore ce soir de nous bénir abondamment de ton Saint-Esprit, Seigneur. De nous accorder cette humilité qui ne peut venir que de toi. Cette véritable humilité, cette sincérité de cœur qui fait que nous t'adorerons en esprit et en vérité. Nous n'avons que faire de plaire aux hommes, Seigneur. ce que nous voulons, c'est te plaire à toi. Seigneur, je te prie pour chacune et chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, et que tu les remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que chacune et chacun puisse devant toi faire son introspection, Seigneur. Que chacune et chacun puisse regarder son cœur, Seigneur. Et si chacun ou chacune trouve un peu d'orgueil dans son cœur, ou beaucoup d'orgueil dans son cœur, que cette personne soit amenée à te demander pardon, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, accorder ce pardon et faire un miracle dans son cœur, faire un miracle dans sa vie. Seigneur, nous te prions et nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons te plaire. Nous voulons être de tes disciples, Seigneur. Nous ne voulons pas être le plus grand, mais nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons te servir avec un cœur sincère. Et nous voulons que tu trouves en nous cette humilité qui te plaît. Sois béni, Père, pour toutes ces bonnes choses que tu nous donnes, jour après jour, au nom de Jésus. Amen. Amen.